Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
On va se parler des bulles voyage. Est-ce que ce serait une possible solution pour faire repartir l'industrie du tourisme? Mais avant, vous mentionnez qu'à partir du mois de juillet, les voyageurs qui sont entièrement vaccinés, donc deux doses ici au Canada, parce que je crois que Johnson & Johnson n'est pas encore disponible sur notre terre. Donc, les gens qui ont eu deux doses, on n'aura plus besoin de passer par un séjour obligatoire dans un hôtel désigné. Donc, la fameuse quarantaine de 14 jours là, qui coûtait quand même assez cher, ce sera chose du passé pour ceux qui ont eu deux doses à compter de juillet pour ceux qui arrivent par voie aérienne. C'est important de le spécifier. Puis de toute façon, les personnes qui arrivaient autrement, c'était pas les mêmes règles. On est avec Dominique Lapointe, qui est titulaire de la chaire sur les dynamiques touristiques, relations socio-territoriales de l'UQAM. Très grand titre. Monsieur Lapointe, bonjour.
Bonjour, oui, c'est juste une partie de mon titre, parce qu'il y a d'autres affaires en dessous de ma signature aussi, ouais, mais on va se contenter de ça pour l'instant.
Oui, parce que je serais pas capable de le dire sans prendre mon respect.
C'est bon.
OK, on va se parler des bulles voyage. Premièrement, juste nous expliquer en quoi ça consiste une bulle voyage.
Ben, les bulles sanitaires, dans le fond, c'est un concept qui, au début de la pandémie, a été mis en place, ou du moins a essayé d'être mis en place, avec, entre autres, la Trans-Tasman Bubble entre l'Australie puis la Nouvelle-Zélande, au départ, où est-ce qu'eux étaient moins touchés, et que finalement, bon, l'Australie, sa situation sanitaire épidémiologique s'est empiré et la bulle a explosé. On a eu la bulle atlantique chez nous au Canada, hein, entre les provinces maritimes qui aussi fait long feu à un instant parce que la situation épidémiologique d'un territoire à l'autre a changé. Mais c'est l'idée que des territoires qui ont des conditions épidémiologiques seraient similaires du côté ça va bien.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, on pourrait en créer où ça va mal.
Ouais, mais oui, ben c'est, ouais, ça serait un peu une antithèse,
oui.
Mais disons que qui crée un espace protégé avec une libre mobilité, une liberté de mobilité là qui ressemble à celle qu'on avait avant la pandémie. Là aujourd'hui avec la vaccination, c'est sûr que cette idée à l'échelle des pays en tant que tel, elle est moins grande, mais l'idée des bulles touristiques, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça existe, entre autres, si on pense à certains resorts qui sont associés à des bateaux de croisière où est-ce que on débarque, on n'a aucun lien avec la population locale, on est un peu comme dans une bulle. Dans l'article du Devoir de ce matin, entre autres, je donne l'exemple de l'île de Roatán au Honduras, qui est une île. Tu sais, le Honduras, c'est pas un pays très sécuritaire pour voyager, mais l'île de Roatán est une île où est-ce qu'elle a sa propre piste d'atterrissage, il y a des resorts, vous pouvez louer des Airbnb, et il y a un niveau de sécurité beaucoup plus élevé qu'à d'autres endroits dans le pays. Et donc, cette idée de créer des bulles pour sécuriser les visiteurs, ça existe, là. C'est même un concept qui a été élaboré dans les années 90. Et là, ce qu'on peut voir, là, puis ma réponse est un peu longue, je sais, ce qu'on peut voir qui va arriver, c'est qu'à des échelles plus petites que les pays, ils risquent de se créer de ces enclaves-là. Où est-ce que on va. Et là, c'est là pour ça que moi, je parle plutôt de corridors sanitaires. Et donc, là, entre des pays complets comme le Canada, où est-ce que la vaccination va bien, puis on est avancé dans la vaccination, ben là, nous, on veut recommencer à se déplacer, mais là, il faut que la destination soit capable de nous sécuriser, tu sais. Et donc, c'est là que des espaces vont créer, des espaces qui, des fois, sont pas des pays entiers, mais qui vont être des sections de pays, surtout dans les relations nord-sud, risquent de créer, à travers une réponse, là, je dirais, médicale, des zones qui vont, où est-ce que nous, on va se sentir, les gens vaccinés vont se sentir plus en sécurité et va protéger aussi la population qui va être... localement peut-être moins vaccinée. Par contre, ça soulève plein de questions éthiques en lien avec qui va profiter des retombées de ce tourisme-là, sachant que c'est les grands groupes qui risquent d'avoir les moyens d'implanter ce type d'infrastructure-là.
Ben oui, et M. Lapointe, moi, c'était la réflexion que je me faisais en vous écoutant. Je me disais, OK, parfait, on fait ça. On regarde la situation épidémiologique, les pays où le plus de vaccination pour faire ces corridors-là. Donc, automatiquement, ce sont les pays qui sont riches. Donc, le tourisme va partir tout d'abord pour ces pays-là, les pays riches. Déjà que c'est plus facile pour les riches de voyager aussi, là. Donc, tu sais, ça reste quand même tout de même assez inéquitable au bout du compte.
Oui, mais ça, c'est pas la pandémie a juste rajouté une couche sur ce qui existait déjà. Tu sais, quand on parle de 1,2 milliard de déplacements internationaux là, avant la pandémie, ben, c'est majoritairement des gens des pays riches et la classe riche des pays moins riches. Et là, une des choses qui est très différente dans cette, tu sais, le tourisme a vécu des crises avant, là, avec le terrorisme, des crises politiques, des crises naturelles, les tsunamis, puis tout ça. La stratégie suite à une crise était toujours de la destination impactée de rassurer et sécuriser les potentiels visiteurs. Là, il y a une nouvelle donnée qui est la réaction des pays émetteurs. Puis là, je vais vous donner l'exemple de la Chine.
OK.
Il y a plein de destinations en Asie du Sud-Est qui sont dépendantes, qui ont, tu sais, des visiteurs chinois qui, eux, ont eu une grande croissance là, dans les 15 dernières années là, avec l'ouverture des frontières de la Chine qui fait que la classe moyenne et les hautes classes chinoises peuvent voyager maintenant, ce qui n'était pas le cas quand moi, j'étais jeune. Et là, tout à coup, la Chine, elle a fermé ses frontières. Les ressortissants chinois peuvent pas faire de voyage d'agrément présentement. Et donc, il y a un boom du tourisme intérieur en Chine. Et vous comprenez que les destinations autour qui avaient besoin, qui vivaient de ces touristes-là, ben, ils peuvent mettre toutes les mesures sanitaires qu'ils veulent présentement. La Chine, vous sortez pas si vous êtes en Chine présentement.
Ouais.
Et donc là, ça, c'est une nouvelle donne aussi. Et ce qu'on risque, ce qu'il faut analyser là, dans ce qui s'en vient et de voir évoluer, c'est oui la vaccination, mais cette vaccination-là, elle est très inégale d'un pays à l'autre pour toutes sortes de raisons, accès aux ressources, inégalité de richesse, tout ça, mais aussi attitude face au vaccin. On voit les Américains ont vacciné rapidement, leur deuxième dose avance, là, ils frappent une espèce de plafond dans certains États par rapport à la méfiance au vaccin. Je pense qu'on va pouvoir s'attendre à quelque chose de similaire en France, là, qui a un historique de non-vaccination là dans les dernières années. Fait que là, ça, c'est sûr que ça, c'est un facteur. Mais après ça, il va y avoir la capacité des grands groupes, qui, entre autres aériens, de repartir la machine.
Oui, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'on attend justement peut-être que les ententes se fassent entre pays? Parce que les compagnies aériennes, pour l'instant, ont l'air assez frileuses à repartir tout ça, là.
Oui, ben c'est sûr que les compagnies aériennes, vous, là, si vous êtes un PDG d'une compagnie aérienne...
Mais j'ai une grosse prime, premièrement.
Hein? Oui, ça, c'est sûr. Et vous avez des actionnaires qui, en théorie, aimeraient avoir des dividendes aussi.
C'est ça.
Et donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est prendre des décisions dans un univers, dans un environnement d'affaires le plus prévisible et sécuritaire possible. Comme vous voyez, depuis tout à l'heure, j'amène des facteurs de risque, j'amène des facteurs d'incertitude qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à voir là vers où ça fonctionne. Et moi, je voudrais que présentement, ce que je vois, c'est qu'il y a comme trois classes de pays là. Donc, on a des pays plus riches qui sont capables et avec une population assez grande qui sont capables, pour l'instant, de se tourner vers le tourisme domestique et supporter en attendant l'industrie, hein, les États-Unis, la Chine, la France, le Canada, dans des moindres mesures, l'Allemagne. Après ça, on a toute une série de pays là-dedans. Il y a la Grèce, le Mexique, qui, eux, ont réouvert là assez rapidement. Tu sais, la Grèce a fait une entente avec Israël au départ, parce qu'Israël était très avancé dans la vaccination. Mm-hmm. Mais présentement, la Grèce, touristiquement parlant, elle est ouverte. Mais parce que c'est des pays qui ont absolument besoin du dollar.
C'est ça, parce que c'est ça, ça fait partie de leur économie. C'est un des piliers de leur économie. Dominique Lapointe, merci. C'était super intéressant. On parlait des corridors entre pays qui seraient peut-être une solution possible pour faire repartir l'industrie du tourisme.